pouvez nous donner le nombre de participants, s'il vous plaît?
Cinquante-cinq. Cinquante-cinq participants.
Voilà, donc bonjour à tous, merci pour votre participation à cette conférence organisée donc pour Alten. Je suis Charles Le Petitpas, analyste chez Oddo BHF, et nous accueillons aujourd'hui M. Bruno Benoliel, directeur général délégué en charge des finances du groupe Alten. Nous allons commencer cette conférence par une introduction de M. Benoliel, et je poursuivrai avec une série de questions avant de laisser la parole à ceux d'entre vous qui souhaitent poser une question additionnelle. Veuillez noter que vos micros sont automatiquement coupés pour le moment et vous aurez l'opportunité, vous pourrez appuyer sur étoile 1 au moment de poser votre question à la fin du Q&A. Je vous laisse donc maintenant la parole à Monsieur Bruno Benoliel.
Oui, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de participer à cette conférence que nous avons organisée avec l'aide d'Odo. Pour la France, dans un premier temps. Nous avons eu beaucoup de questions et reçu beaucoup de demandes de rendez-vous qui font qu'il était impossible de contenter tout le monde, parce qu'il n'y a que Simon et moi qui sommes disponibles. Et comme vous l'imaginez bien, le contexte aujourd'hui opérationnel fait que nous sommes entièrement mobilisés sur des problématiques d'organisation commerciale et sociale. Donc, comme d'autres sociétés, nous avons trouvé effectivement plus efficace et plus efficient, plutôt que d'échelonner des one-on-one sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, d'autant que les choses vont vite et évoluent assez rapidement, de vous permettre de participer à une conférence téléphonique sous un format un peu particulier, pour vous permettre d'avoir le maximum de réponses possibles aux questions que vous pourriez vous poser et que vous vous posez nécessairement. Donc je pense que chacun d'entre vous a pu prendre connaissance des notes d'analyse qui ont été publiées à l'issue de notre publication du chiffre d'affaires du premier trimestre. Donc je ne vais pas revenir sur les chiffres, ce serait je pense une perte de temps. Bon, vous avez vu que le premier trimestre a été un premier trimestre en croissance, impacté par le début de la crise sanitaire à partir de du milieu du mois de mars en Europe, un peu avant en Chine, mais ça n'a pesé que pour 2% sur la croissance du groupe, qui a quand même été de 4% au premier trimestre, elle aurait été de 6% si on n'avait pas commencé à subir les conséquences d'un certain nombre d'arrêts de projet. Le mois d'avril est un mois particulièrement compliqué, puisque beaucoup de projets ont été suspendus ou sont à l'arrêt. Donc on doit faire face à des taux d'intercontrat extrêmement élevés, sans précédent. Je crois que même pendant la crise de 2008-2009, à l'exception du secteur automobile, nous n'avions jamais rencontré de taux d'intercontrat aussi élevés. Nous avons dû mettre en place des dispositifs de chômage partiel dans un certain nombre de pays, dont la France, pour nous permettre de faire face à ces arrêts brutaux d'activité. La visibilité pour l'instant est quand même extrêmement réduite, déjà parce qu'elle est chez nos propres clients. La plupart des gens qui peuvent sont en télétravail. Nous avions des dispositifs déjà qui permettaient aux gens de télétravailler, évidemment pas pour 100% de l'effectif. Nous avions, fin d'année dernière, grandement augmenté les capacités d'infrastructure et de bande passante compte tenu des grèves en France notamment, qui ont permis de s'adapter plus rapidement. Et nous étions le 15 mars en capacité, après avoir travaillé d'arrache-pied, la DSI a fait un travail assez extraordinaire pour permettre à 100% de l'effectif de pouvoir travailler en remote si nécessaire, en France, mais pas simplement, puisque c'est le cas dans tous les pays dans lesquels Alten est implanté. Bon, néanmoins, le télétravail est une solution possible, Beaucoup de nos ingénieurs sont quand même en intercontrat, nonobstant les capacités techniques qui leur sont offertes, parce que certains clients ont décidé de fermer des sites de production, et donc des sites tout court, et ont purement et simplement arrêté ou suspendu les projets. Alors, l'industrie est plus touchée que l'IT, encore qu'on voit progresser l'intercontrat également dans le domaine bancaire assez récemment, particulièrement l'automobile et l'aéronautique civile, ce qui ne vous surprendra pas. On a des taux d'intercontrat sur le mois d'avril qui vont être très élevés et on espère une lente décrue à partir de la réouverture des sites et de la reprise des activités. Voilà, je vais laisser la parole à Charles. Je crois qu'il a dû préparer un certain nombre de questions qui doivent être peut-être une synthèse des questions que vous avez bien voulu lui faire parvenir ou des réflexions qu'il a pu lui-même mener au travers des questionnements, j'imagine, et de sa propre réflexion sur l'activité. Et à l'issue, écoutez, je suis à votre disposition pour répondre dans la mesure du possible et surtout de ce que je sais aux questions que vous voudrez bien me poser. Charles, si vous pouvez faire la conférence et puis démarrer l'entretien, s'il vous plaît.
Très bien. Merci Bruno. Merci pour cette introduction. Est-ce que vous auriez aujourd'hui donc une estimation du nombre d'effectifs qui bénéficient des mesures de chômage partiel au niveau du groupe? Et puis peut-être un focus sur la France en particulier, qui reste une géographie importante.
Alors, au niveau du groupe, nous avons décidé de recourir chaque fois que possible et dans tous les pays pour lesquels c'était possible au chômage partiel, ce qui nous permet d'attendre pour voir ce qui va se passer après la période de confinement ou les périodes de confinement. Nous avons mis au chômage partiel non seulement des ingénieurs, mais également des personnes des fonctions support, c'est-à-dire des commerciaux, des gens en charge du recrutement, des gens dans les fonctions marketing, par exemple, de manière à pouvoir amortir autant que possible l'impact de la crise dans les comptes du groupe. Il y a aujourd'hui plusieurs milliers de personnes chez Alten qui sont en chômage partiel. Bon, essentiellement des ingénieurs, évidemment, plusieurs milliers d'ingénieurs. Alors, principalement en France, parce que, évidemment, la France est le pays où nous sommes le plus fortement implantés. Il y a à peu près 11 500 à 12 000 ingénieurs en France. On a aussi déployé le chômage partiel en Suède, au Royaume-Uni, en Allemagne. Ce sont pour les principaux pays où il a été mis en place. On a également quelques mesures de chômage partiel, mais avec des volumes moindres en Italie et en Espagne. Alors, je ne veux pas vous donner de chiffres précis parce qu'on ne les communique pas par pays, mais juste quand même pour vous dire qu'il y a plusieurs milliers de personnes au chômage partiel aujourd'hui en France. Nous avons déposé des dossiers dans toutes les sociétés du groupe qui étaient touchées, c'est-à-dire la quasi-totalité. Et ensuite, les ingénieurs en chômage partiel se comptent par centaines, mais pas non plus plusieurs centaines, dans les autres pays que j'ai cités. D'autant que la volumétrie du chômage partiel, en fait, évolue au gré des projets, reprise ou arrêt de projet, puisque, comme vous savez, probablement, on fait une demande auprès de la directe d'un nombre d'ETP maximum et d'un volume d'heures, et ensuite on déclare au réel en fonction des projets et des temps réellement passés sur projet chaque mois. Enfin, en France, on est vraiment sur plusieurs milliers d'ingénieurs.
D'accord. Si on regarde le taux d'activité, vous aviez indiqué lors de votre conférence qu'il avait atteint un niveau de 88% au niveau du groupe en mars. On imagine bien qu'il y a eu un effondrement sur la deuxième partie du mois de mars. Est-ce que vous avez déjà une première estimation de ce ratio pour le mois d'avril?
Oui, bien sûr. Alors ça reste une indication, puisqu'on n'a pas la consolidation, l'intégralité des bases de données encore des temps au niveau du groupe. Mais on aura un taux d'activité qui sera compris au mois d'avril, je pense, entre 75 et 78%. C'est-à-dire un taux extrêmement bas, le plus bas que le groupe ait jamais connu, du reste. puisque en 2009, le plus bas que nous ayons atteint, c'était 85% au mois de janvier. Donc vous voyez qu'on est quand même substantiellement plus bas. Ça devrait représenter un plus bas d'activité pour cette année, même si on a des perspectives qui sont assez floues pour mai et juin, encore aujourd'hui. Alors évidemment, il y a une part, pas la totalité, mais il y a une part des ingénieurs qui sont en intercontrat, puisque ce taux comprend tous les ingénieurs en intercontrat qui sont inscrits au chômage partiel. J'attire quand même votre attention sur le fait que pour le chômage partiel, nous ne mettons au chômage partiel que les ingénieurs qui se retrouvent en situation d'intercontrat du fait de la crise sanitaire. Hein, c'est-à-dire que pour être clair, quand une entreprise avait 5 ou 6% d'intercontrat, avant le début de la crise, évidemment, les intercontrats concernés ne sont pas recensés dans les effectifs qui sont au chômage partiel.
Entendu. Alors si on passe maintenant aux différents secteurs, vous aviez indiqué que l'automobile était un des secteurs qui a le plus ralenti depuis le début de la crise avec l'aéronautique. Dans quel état d'esprit aujourd'hui sont les constructeurs automobiles par rapport à leurs plans initiaux de R&D ? Est-ce que ça pourrait modifier ces plans ? Peut-être pas uniquement le timing, mais aussi le volume de R&D. Est-ce qu'il y a certains types de projets qui vous paraissent aujourd'hui plus à risque que d'autres ?
Alors, je comprends bien la question. C'est assez compliqué d'y répondre de façon précise. Je vais néanmoins essayer. Déjà, les deux secteurs qui sont très touchés, comme je vous l'ai indiqué, c'est l'automobile, qui avait déjà commencé à ralentir à la fin de l'année dernière, mais également l'aéronautique civile et quelques comptes qui en dépendent. Je pense notamment à Amadeus, qui a une chute de ses revenus considérable. Je ne sais pas si je suis autorisé à dire les chiffres, mais je pense qu'ils étaient dans la presse, et qui donc, par votre conséquence, a décidé d'arrêter la quasi-totalité de ses projets. Dans ces deux industries, aéronautique civile et automobile, l'approche est assez similaire chez les clients. Les deux font face à une très forte chute de leurs revenus. Airbus, bon, dans la presse a fait état des courriers que M. Faury envoyait à ses salariés, et également, il a donné une interview, je crois, sur RTL, il y a 2-3 jours, qu'il a fait état d'une baisse forte de la production, d'un portefeuille de commandes qui avait baissé, d'une revue des ventes avec les houloueurs ou les compagnies aériennes, et il s'attendait à une baisse des revenus, je crois, de l'ordre de 30% et assez durable. Bon. Dans l'automobile, la chute des revenus est aussi considérable. La question, ce sera le rebond. Dans combien de temps ? Le fait est, c'est qu'à court terme, ce sont deux secteurs qui ont des contraintes de cash très fortes et qui procèdent à peu près de la même façon, c'est-à-dire qu'ils sont les deux en train de faire des revues de portefeuille projet, un par an, projets qui ont été suspendus ou arrêtés. Enfin, dans les faits, ils sont pour l'instant en pause, avec une classification des projets qui sont jugés stratégiques, moyennement stratégiques et pas stratégiques. Nous n'avons évidemment pas accès à cette analyse qui est en cours. Et à l'issue, on nous communiquera les projets qui reprendront, ou qui vont reprendre, et puis les projets qui seront arrêtés ou différés. En sachant qu'un projet différé, ça s'assimile quand même à un projet arrêté, puisqu'on ne peut pas le reprendre 6 mois ou 1 an plus tard à l'endroit où on l'a laissé. Alors dans l'aéronautique, c'est les projets autour du manuf engineering qui probablement sont les plus à risque, parce que ce sont des projets qui avaient pour objectif d'augmenter les cadences de production. Les projets qui sont relatifs à l'industrie 4.0, c'est-à-dire en fait une partie des projets quand même dans le process engineering devrait perdurer. Dans l'auto, comme vous savez, il y a des contraintes réglementaires, notamment autour des normes d'émission. Donc on pense que c'est plutôt les projets de conception de nouveaux véhicules qui pourraient être décalés. Mais encore une fois, ça dépendra vraiment de leurs propres contraintes de cash. Et si elles sont très tendues, il y a fort à parier que la baisse d'activité pourrait être assez sensible dans ces deux secteurs. Voilà, alors. on sera impacté comme les autres, du fait de la baisse globale des budgets. On a un positionnement qui est quand même, notamment dans l'automobile, un positionnement beaucoup autour des émissions, environnement moteur, infotainment de véhicules autonomes. Ça, par exemple, tout ce qui touche aux projets liés aux émissions, en toute logique, sauf à ce que l'Union européenne décide de décaler l'application des normes, ça devrait être poursuivi. Maintenant, est-ce que les projets autour des véhicules autonomes vont être poursuivis avec le même calendrier? Franchement, j'ai pas la réponse, mais je ne serais pas surpris qu'ils soient décalés dans le temps.
Entendu. Et toujours dans l'automobile, est-ce que vous pourriez nous rappeler la répartition de votre chiffre d'affaires, grosso modo, entre constructeurs et équipementiers? Et est-ce que vous voyez aujourd'hui se désigner une différence de réaction entre les uns et les autres?
Alors, l'automobile, c'est à peu près 20% du chiffre d'affaires d'Alten, qui est réparti aux trois quarts entre les constructeurs et un quart sur les équipementiers. Alors, il y a des différences sensibles entre les clients, mais qu'ils soient constructeurs ou équipementiers. C'est-à-dire, il n'y a pas de tendance particulière où on verrait les constructeurs continuer à investir plus que les équipementiers. C'est extrêmement hétérogène. Nous, ce que l'on pense, c'est que 2020 va être sinistré et que on devrait normalement voir une reprise intervenir dans l'automobile en 2021, mais pas avant.
Entendu. Alors, si on se réfère à la précédente crise, donc 2008-2009, qui avait particulièrement touché l'automobile, mais pas uniquement, le ratio d'externalisation des dépenses de R&D a généralement augmenté. Est-ce que vous pensez que ce même phénomène puisse se reproduire suite à cette crise? Et si oui, quels secteurs vous paraissent offrir éventuellement le plus de potentiel d'augmentation de ce ratio d'externalisation?
Alors bon, c'est exact que à chaque crise, 2002, 2003, 2009, on a vu progresser le ratio d'externalisation, puisque les clients préfèrent externaliser que de recommencer à embaucher, surtout lorsqu'ils n'ont pas la visibilité nécessaire sur leurs propres activités et marchés. Bon, à court terme, il y a évidemment une contraction de la demande, parce qu'il est plus simple de jouer sur la sous-traitance, mais ensuite, vous avez raison, la recherche d'économie et de flexibilité concourt en règle générale à augmenter la part d'externalisation. Je ne sais pas s'il y a un secteur plus qu'un autre qui offre un potentiel d'externalisation, d'augmentation de l'externalisation plus important, mais en règle générale, ce qu'on constate, c'est que les secteurs les plus touchés sont les secteurs qui ont tendance à externaliser ensuite le plus.
D'accord, très clair. Et si on pense à la santé, qui est quand même le deuxième secteur européen en termes de dépenses R&D, mais qui représente de votre chiffre d'affaires que 8% de votre chiffre d'affaires groupe, est-ce que vous pensez que là, il peut y avoir un potentiel aussi plus important qui pourrait être déclenché par cette crise?
Non. Chez Alten, le secteur des sciences de la vie s'est développé beaucoup ces dernières années. Pour mémoire, Alten avait 2% de son chiffre d'affaires dans les sciences de la vie en 2013. Depuis, on a beaucoup investi, d'ailleurs à tous les sens du terme, parce qu'on a réalisé des acquisitions dans ce secteur d'activité, et on a réalisé une croissance organique assez forte, hein, je crois que en moyenne peut-être de l'ordre de 20% par an ces 4-5 dernières années. Maintenant, donc, ça devrait continuer à progresser, et donc les 8% pourraient devenir 10 puis 12. Maintenant, dans le secteur des sciences de la vie, Alten est présent dans les affaires réglementaires et la qualité, la gestion des études cliniques, le data management, les biostatistiques, tout ce qui touche à la pharmacovigilance. On travaille aussi pas mal dans la conception et le développement d'équipements médicaux. Mais nous ne sommes pas présents sur la recherche fondamentale, la recherche de nouvelles molécules ou de nouveaux vaccins. Et en fait, la R&D, une part importante de la R&D est quand même sur ces métiers-là, sur lesquels on n'est pas présent. Donc oui, ça va continuer à augmenter. A contrario, c'est un secteur qui est en train de se structurer aussi. Hein. C'est-à-dire que on voit chez des grandes entreprises pharmaceutiques des approches de rationalisation des panels avec une réduction du nombre de fournisseurs donc, qui devrait en toute logique nous profiter, mais la contrepartie de ça, c'est toujours des efforts sur les tarifs ou sur la productivité.
Alors justement, ce phénomène de rétrécissement des panels fournisseurs avait été accéléré par la crise de 2008-2009. Est-ce que vous pensez, au-delà de la santé, que ça pourrait avoir des effets d'accélérateur sur d'autres secteurs qui sont en train de se structurer?
Alors, oui, c'est à peu près sûr que le même processus va se reproduire. Bon, en France, la plupart des grands donneurs d'ordre ont quand même réalisé une part très significative du chemin, avec des réductions de panels à 4, 5, 6 prestataires. On pourrait imaginer qu'ils aillent plus loin, dans l'automobile, les sciences de la vie, par exemple, mais pas simplement. Quand un acteur est gros, il est avantagé parce qu'il est en mesure d'offrir un panel de compétences, de savoir-faire et de géographie. La contrepartie, comme vous savez, c'est des efforts tarifaires ou des gains de productivité à mettre en œuvre. Mais ce qu'on a vu en France et ce qui pourrait se poursuivre en France, hein, parce que tout n'est pas fini, ça se mettra aussi en place dans le reste de l'Europe. Ou comme la R&D externalisée représente un enjeu moindre, enfin, en tout cas jusqu'à présent, les processus de rationalisation des panels qui ont été mis en place en France après la crise de 2003, on commence à les voir s'initier dans la plupart des pays d'Europe où la R&D externalisée se développe, c'est-à-dire à peu près partout, mais on est encore loin, même en Allemagne, des panels à 4-5 prestataires, comme c'est le cas en France.
Entendu. Est-ce que vous pensez que cette situation puisse affecter plus durablement votre niveau de marge opérationnelle normatif autour de 10%, avec des baisses de prix qui s'installeraient dans la durée et des demandes de gains de productivité pas toujours réalisables?
Alors, effectivement, c'est le risque, parce que des baisses de prix durables dans certains secteurs, comme on l'a vu en 2002, 2003 et 2009, sont probables. Il y a certains secteurs de l'industrie qui, de toute façon, vont probablement aussi tirer parti de la crise pour pouvoir demander encore plus de gains de productivité, voire encore plus de baisses de tarifs. Faut quand même voir que sur les dernières années, on a réalisé des gains de productivité significatifs pour nos clients. Les salaires, ils ont finalement, hormis ces 2-3 dernières années, sur les 15 dernières années, relativement peu progressé. Donc, la réponse est, ça dépendra en fait du comportement des salaires à moyen terme. Là, de toute façon, la crise va probablement, dans certains secteurs, engendrer, même dans le monde de l'ingénieur, alors pas de façon durable, mais probablement pour les 2 prochaines années, je ne sais pas si ça va engendrer une baisse des salaires, mais en tout cas, il est peu probable que les salaires continuent à augmenter. Ça, c'est à peu près sûr. Une part plus importante d'offshore, pourquoi pas, même si on est dans le domaine de la R&D externalisée et que c'est finalement un secteur qui recourt beaucoup moins que l'IT, par exemple, ça pourrait continuer à se développer un petit peu. Et puis, ensuite, ça dépendra aussi de notre capacité à adapter notre organisation face aux clients, si effectivement on a à faire face à un point ou 2 points structurels de baisse de marge brute.
Et sur ce phénomène d'offshore, est-ce que vous pensez que là, il peut y avoir quand même un changement assez radical avec actuellement quand même des missions qui sont réalisées pour celles qui perdurent à distance? Est-ce que vous voyez des acteurs indiens notamment qui sont présents sur ce segment-là finalement en profiter.
Ça va, enfin, il y a deux secteurs qui potentiellement pourraient demander à ce que l'offshore se développe plus que ça n'est le cas aujourd'hui. C'est évidemment l'aéro et l'auto. Deux secteurs qui recourent déjà un petit peu, mais pas dans des proportions considérables. Donc ça pourrait effectivement s'accélérer. La limite, c'est quand même la nécessité de proximité avec les donneurs d'ordre. Donc, contrairement au monde de l'IT, vous êtes obligé d'avoir un front office technique et commercial face aux clients. Et puis, l'autre limite, c'est la capacité à mettre en place les compétences pour pouvoir répondre à la nature des projets. Vous avez des projets qui peuvent s'offshorer plus facilement que d'autres. Par exemple, tout ce qui touche au domaine de l'ingénierie documentaire, aujourd'hui, on peut très bien réaliser ces projets-là, je dirais, à 80-90% en offshore. Il y a d'autres projets qui touchent à des sujets de conception beaucoup plus complexes qui ne peuvent pas être offshorés. Mais je pense que ça participera à l'augmentation de la contribution offshore ou nearshore, ça contribuera à être une réponse aux demandes de gains de productivité ou de baisse de tarifs qui ne vont pas manquer d'arriver.
Entendu. Et donc si on y anticipe une baisse durable, ou en tout cas une baisse durable de la demande dans l'aéronautique et peut-être dans d'autres secteurs, dans quelle mesure est-ce que vos consultants, qui aujourd'hui sont spécialisés dans un segment particulier de l'aéro, comme par exemple le manufacturing, dans quelle mesure ceux-là sont mobiles et capables de passer d'un secteur d'activité à l'autre?
En fait, tout dépend des compétences des ingénieurs. Nous, Alten a quand même la chance, ça c'est historique, d'avoir des compétences plus spécifiquement liées au métier des systèmes temps réel, systèmes embarqués, logiciels de communication. Plus récemment, on a beaucoup développé les data scientists. Donc tout ça sont des compétences qui sont plus fluides que les compétences en mécanique, par exemple. Compétences qu'on a relativement peu. Donc ce sont des compétences qu'on peut faire passer de l'aéronautique, si nécessaire, à d'autres secteurs, que ce soit les telcos, l'automobile, le spatial, la défense, la sécurité, etc. Le naval, aussi pas mal. Le ferroviaire, pour autant, qui est quand même une demande suffisante dans les autres secteurs pour absorber les compétences qui seraient en surnombre dans des secteurs comme l'aéro ou l'auto. Ça, pour l'instant, on n'a pas la visibilité suffisante pour pouvoir savoir exactement, en termes de cartographie, quels sont les secteurs qui vont pouvoir jouer le rôle d'amortisseur.
Et par ailleurs, est-ce que la mise en place du télétravail sur une durée qui devient relativement longue dans plusieurs pays pourrait changer durablement la façon de travailler de vos consultants? Est-ce que vous pensez que le télétravail est bien adapté à vos métiers? Et est-ce que ça vous fait est-ce que vous avez ou vous prévoyez de mener des réflexions, par exemple, sur vos investissements immobiliers?
Oui, alors, bon, déjà, comme la crise sanitaire est loin d'être terminée, le télétravail va se poursuivre. Ça, c'est sûr. On est en train de travailler sur les plans de reprise d'activité, le respect des préconisations sanitaires, le fait aussi que certains ont tendance à privilégier le télétravail parce que transport en commun et donc réticence à venir sur le lieu de travail. Donc, le télétravail va rester, je dirais, un mode d'organisation du travail, alors pas comme aujourd'hui évidemment, mais ça va se poursuivre pendant encore plusieurs mois. Bon, après, il y a des questions de confidentialité qui font que pour certains projets, il est absolument nécessaire d'avoir une présence sur site. Je pense notamment au domaine de la défense ou de la sécurité. Mais on peut imaginer qu'il y a des projets qui fonctionnent de façon panachée. C'est-à-dire que des gens viennent 2-3 jours sur site, que ce soit client ou Alten, qui restent chez eux 2-3 jours en télétravail. Ce qu'on constate quand même, c'est que il faut conserver un lien physique avec des réunions en présentiel. Alors, on peut faire des réunions virtuelles par Teams, Skype, notamment. Zoom, conditions de sécurité ne sont pas requises. Mais à un moment donné, il faut quand même se rencontrer. Vous voyez, par exemple, il y a un certain nombre de projets, notamment des work packages pour lesquels les équipes sont autonomes, puisqu'elles sont totalement managées et pilotées par Alten. Mais à un moment donné, il faut avoir des stircos techniques avec le client, faire des points d'avancement, adapter les specs si nécessaire. Enfin bon. Donc ça se fait pour l'instant. Hein. Tout ça, ça se fait de façon virtuelle. Mais on voit bien que les gens sont quand même désireux de recréer du contact. Alors, pour autant, le télétravail, ça a mis aussi en évidence des façons de fonctionner. Vous avez des gens qui travaillent bien, enfin, quand je dis bien, c'est-à-dire qui sont totalement autonomes et dont la productivité en télétravail n'est absolument pas dégradée. Vous avez d'autres personnes pour lesquelles on voit bien que c'est pas aussi simple que de venir travailler au bureau. C'est vrai d'ailleurs dans tous les métiers, hein. Je ne vise pas particulièrement les ingénieurs. Voilà, donc ça veut dire aussi qu'il faut faire l'apprentissage de nouveaux modes de management pour les encadrants, des points d'avancement à distance, contrôler le travail qui est réalisé, baliser le travail, etc. Bon, donc il faudra s'adapter, mais c'est sûr que ça conduit à des réflexions en interne, et notamment, puisqu'on parlait des marches tout à l'heure, ça va aussi amener à des réflexions sur les surfaces et sur le nombre de mètres carrés dont on aura réellement besoin. Parce que les surfaces, nous, on a quand même aujourd'hui, chez Alten, rien qu'en France, 70 000 mètres carrés, on peut envisager de les réduire. On n'a pas encore fait de plan de réduction, c'est beaucoup trop tôt. On a envisagé de fermer quelques micro-sites parce que finalement, compte tenu du contexte, c'est plus nécessaire de les conserver. Mais maintenant, il y a une réflexion d'ensemble probablement plus importante qui sera menée, mais une fois qu'on aura une vision à peu près stabilisée de l'organisation. Pour l'instant, c'est trop tôt.
Pour avoir un ordre d'idée, les locations immobilières représentent combien de points de marge environ au niveau du groupe ?
Ça, je peux. Enfin, les locations immobilières, bon, je ne peux pas vous donner les chiffres exacts, mais c'est plusieurs points.
Si on passe maintenant au paysage concurrentiel, il a été un peu modifié donc, au cours de ces derniers mois avec l'intégration d'Altran au sein de Capgemini. Est-ce que vous pensez que cette combinaison puisse en faire un concurrent peut-être plus difficile, ou est-ce que ça pourrait modifier quelque chose dans votre industrie? Et est-ce que vous partagez finalement cette vision du rapprochement entre l'IT et l'ingénierie?
On a souvent été questionné sur le sujet. Pour l'instant, il s'agit d'une prise de contrôle simplement d'Altran par Capgemini. Ce que j'entends par là, c'est que l'intégration débute à peine entre les deux groupes. Donc il est difficile pour nous, qui sommes totalement extérieurs à cette opération, de vous donner un avis ou même une perception, puisque pour l'instant, on n'en voit pas les incidences sur le terrain. Bon, les métiers sont quand même très différents entre l'IT et l'ingénierie. Et donc, il n'y a pas de raison que nos concurrents, quels qu'ils soient, sur les mêmes métiers qu'Alten, soient plus ou moins impactés indépendamment de leur appartenance à tel ou tel groupe. Maintenant, entre l'IT et l'ingénierie, le principal point de rencontre que l'on voit, nous, c'est dans l'usine, dans tout ce qui est conception des outils et des process de production, puisque on est au carrefour entre les BPO et l'intégration des process et les outils, enfin tout ce qu'on vise de façon assez générale ou générique sous le vocable d'usine 4.0. Au-delà, bon voilà, pour nous ça semble pas évident, mais peut-être que finalement il y aura d'autres points d'intégration qui permettront de développer des synergies qui à nous sautent pas aux yeux comme ça. Donc ça, on verra bien comment les choses vont évoluer sur le terrain, parce qu'en fait c'est la meilleure façon de comprendre, enfin de voir si l'intégration d'Altran dans le CAP aura des conséquences en termes d'environnement et de positionnement concurrentiel.
Entendu. Et pour pour finir sur ma liste de questions et ensuite on pourra ouvrir donc la conférence aux autres participants. Est-ce que vous envisagez de conclure des acquisitions dans les mois à venir? Est-ce que la crise modifie votre focus en termes de à la fois de nature et de géographie des cibles recherchées?
Alors oui, alors bon, déjà on avait un certain nombre d'acquisitions qui étaient dans le pipe, qui étaient en voie de conclusion, certaines même pour lesquelles le closing n'était pas effectué, mais le signing l'était. Bon, celles-ci, pour l'instant, ont été mises en stand-by pour des raisons évidentes. Bon. Pour autant, on continue à regarder le marché, parce que la crise peut créer des opportunités de rachat intéressantes, même si au fond ça les complique, parce que 2020 est une année totalement atypique, et évidemment on ne peut pas fonder une évaluation sur 2019. Donc ça rend les choses plus compliquées, ça peut aussi conduire des vendeurs à différer leur projet de cession, parce que évidemment c'est pas l'année la plus porteuse pour vendre, mais ça peut aussi amener certains vendeurs qui rencontreraient des difficultés à envisager d'accélérer le processus de cession, si tant est qu'on trouve des formules d'intéressement, notamment sous forme d'earn-out, qui ne remettent pas en cause, je dirais, le potentiel économique de la société. Donc nous, nos priorités en termes de M&A n'ont pas changé. On est toujours sur la même géographie et sur les mêmes métiers, et on regarde toujours des sociétés dans ces secteurs. Donc clairement, c'est quoi? C'est toujours US, on regarde l'Allemagne, l'Europe du Nord. On pourrait regarder aussi des petits projets d'acquisition en France pour se renforcer, que ce soit dans les sciences de la vie ou dans l'IT, sur certains positionnements particuliers. Non, on reste à l'écoute. Voilà.
Entendu. Bah, merci beaucoup Bruno pour toutes ces réponses. Je vous propose maintenant qu'on laisse l'opportunité donc à ceux d'entre vous qui le souhaitent de poser une question. Pour ouvrir votre micro, il faut donc taper étoile 1 sur votre clavier. Et vous pouvez penser aussi à appuyer sur étoile 1 une fois que vous aurez posé votre question.
Allô? Vous m'entendez?
Oui.
Allô? Oui, bonjour Bruno, c'est Marco Bruzzo de Mirabeau AM. Je voulais faire un petit point sur les chiffres que vous avez donnés sur la croissance au Q1 en disant que notamment l'impact de la deuxième moitié du mois de mars avait coûté 2 points. Est-ce que vous avez déjà en interne des scénarios sur l'impact sur le Q2 et quelle fourchette de prix entre guillemets ou quelle fourchette pouvez-vous éventuellement avoir en tête pour la deuxième partie de l'année avec le peu de visibilité évidemment dont on dispose? Merci.
Alors, évidemment avec les réserves d'usage sur les chiffres, hein, parce que franchement ça bouge quasiment tous les jours. On a quand même été obligé de faire un certain nombre d'hypothèses, mais avec un degré d'imprécision qui est ce qu'il est. Sur le Q2, nous, ce qu'on imagine par rapport à l'an dernier, c'est une dégradation du fait de la crise qu'on a chiffrée à peu près à 23% sur l'activité. Ce qui est vraiment considérable. Hein. C'est-à-dire que on s'attend à une baisse du chiffre d'affaires supérieure à 20% en périmètre constant, et en retraitant des arrêts ou des suspensions de projets liés à la crise, pas en raisonnant par rapport au budget, hein, d'accord, en raisonnant par rapport à la situation du mois de mars, en tenant compte des tendances du début de l'année, hein, donc parce qu'on a juste nos forecasts en dynamique, en temps réel tous les mois, on aurait dû faire une croissance organique de l'ordre sur le Q2 de l'ordre de 4%, 4 à 5%, et on va être en décroissance organique de plus de 20%, je pense.
D'accord. Et sur la deuxième partie, le H2, vous voyez une stabilisation et juste une réduction de cette forte baisse. C'est déjà assez un peu trop loin. Comment vous...
Non, non, on voit, non. Q2 est vraiment... Q2, c'est un mois d'avril complètement à l'arrêt, un mois de mai qui va être aux trois quarts à l'arrêt, parce que la sortie de confinement va se faire progressivement, on enchaîne avec le pont de l'Ascension, enfin voilà. Donc on peut en dire qu'avant le 25 mai, il ne va rien se passer, donc mai est quasiment aussi très très fortement impacté. Bon, juin, on a assez peu de visibilité, on va bien voir à quel niveau d'activité les projets reprennent. Sur S2, on a fait des projections. On devrait être, en toute logique, je sais pas, entre moins 7 et moins 9 par rapport à l'an dernier, vous voyez. Mais aujourd'hui, parler de projection S2, c'est assez ésotérique, mais il y aura une réduction, c'est sûr.
Ok, super, merci beaucoup.
Pour rappel, si vous voulez poser une question, il faut taper étoile 1 donc pour ouvrir votre micro.
Bonjour, Pascal Régis, oui. Chez Odo. J'ai l'impression que donc la baisse de l'activité est concentrée sur deux secteurs, l'automobile et l'aéronautique civile. Je déduis que les autres secteurs continuent à fonctionner à peu près normalement en télétravail.
Alors, on va dire que la baisse la plus forte est sur l'automobile et l'aéronautique civile, puisque là, on est sur des baisses d'activité qui sont supérieures à 30%. Après, les autres secteurs d'activité sont aussi touchés. On n'a pas de secteur d'activité qui travaille normalement. Même le secteur IT, sur le mois d'avril, a été touché. On n'a pas des taux d'intercontrat qui sont aussi élevés, mais on tangente quand même les 10% d'intercontrat. 10, 12, ça dépend des semaines, 14, bon, ça redescend, enfin, vous voyez. Donc, c'est vrai qu'il y en a deux qui sont très touchés, et puis qui le sont un peu moins.
Et est-ce que vous avez une visibilité sur les projets que vous étiez en train de négocier pour les trimestres suivants, donc pour la fin de l'année et l'année 2021? Qui eux aussi, donc ce pipeline de projets futurs qui doit être en contraction très très forte, et là peut-être tout secteur confondu.
Non, alors ça, on ne l'a pas parce que en fait, les cycles de décision sont assez courts, hein. C'est de l'ordre entre 1 et 2 mois, donc c'est beaucoup beaucoup trop tôt. Après, je reviens sur la question précédente, c'est vrai que l'auto et l'aéro sont très touchés et que c'est vrai dans trois pays qui sont quand même les principaux, France, Allemagne et aussi pour le UK pour l'auto et la Suède pour l'automobile. Maintenant, il y a des pays qui s'en sortent beaucoup mieux en termes de baisse d'activité. Par exemple, les pays d'Europe du Sud, prenez l'Espagne et l'Italie. Pourtant, l'Italie est confinée depuis bien plus longtemps que la France. On est présent aussi chez FCA, par exemple, dans des secteurs en ingénierie, mais les taux d'intercontrat dans ces pays-là sont inférieurs à 10%, vous voyez. Alors, okay, merci. On n'a pas d'explication, parce que on pourrait considérer qu'il devrait y avoir une logique sectorielle, et en fait, malgré tout, les projets continuent en télétravail. Vous voyez, par exemple, en Italie, au mois de mars, il n'y a pas eu de baisse, enfin, il y a eu une très faible baisse du taux d'activité. Donc finalement, c'est la France qui est le plus impactée et ensuite la Suède par la baisse de l'activité.
Bonjour, Marie Rupp, Allianz Global Investors. Vous avez parlé de la pression sur les prix, comment elle pourrait se dérouler ou comment vous pourriez faire face un peu plus tard, mais apparemment elle se passe déjà aujourd'hui. Comment vous réagissez donc aux demandes qui apparemment vous avez considérées très peu raisonnables de vos clients déjà pour faire des concessions sur les prix? Est-ce que vous avez des limites, vous avez des principes que vous voulez appliquer dans le contexte actuel?
Bon, le principe déjà, c'est on peut imaginer pour 2020, qui est une année compliquée, et qu'il est pour tout le monde, c'est-à-dire que nos clients mettent en avant les difficultés qu'ils rencontrent, mais et les logiques de partenariat, mais les difficultés sont aussi vraies pour nous. Donc la logique, c'est de ne pas bouger sur les prix, éventuellement de consentir des remises ponctuelles sur l'année qui seraient liées à des volumes de chiffre d'affaires ou à des garanties de maintien ou à des volumes négociés, vous voyez, mais pour l'instant, de ne pas bouger sur les tarifs. Ensuite, il faut travailler sur des plans de productivité. Ça, on sait le faire, on l'a déjà fait. On peut voir comment, pour faire écho à une question qu'a posée Charles, essayer d'instiller un peu plus de parts d'offshore pour baisser le prix de revient moyen, donc d'accompagner dans la mise en œuvre et dans un plan de productivité. On ne peut pas accepter des baisses de tarifs comme certains ont pu nous les demander. Je peux vous dire, je ne vous dirai pas qui, bien sûr, mais pour ne pas mettre les clients en difficulté, mais vous avez des clients qui demandent des baisses de 15%, vous voyez, ça c'est juste économiquement intenable, ou qui demandent de travailler gratuitement pendant les 6 derniers mois de l'année, c'est-à-dire sans marge. Enfin, on voit passer un peu de tout. Il y a même des clients qui probablement vont profiter de la crise pour aller plus loin, c'est-à-dire probablement réorganiser une partie de leurs activités, parce que la crise, c'est un catalyseur, si vous voulez, de problèmes de gestion que les entreprises rencontrent. Bon. Évidemment, ensuite, on est obligé de tenir compte de l'environnement concurrentiel, ça va dépendre aussi de ce que les concurrents acceptent ou pas, et de ce que ça signifie pour nous en termes de maintien d'activité. Donc aujourd'hui, on a des demandes, pour l'instant elles ne sont pas fermes, tout le monde est dans une situation dans laquelle les uns demandent, les autres évoluent. Certains clients avec lesquels, je vous dis, on n'est pas opposé à regarder un certain nombre de remises ponctuelles, mais on ne peut pas accepter des baisses de tarifs qui sont incompatibles avec la nature même de notre activité.
Bonjour, Gilles Chauffeau, Exibium. Dans le prolongement de la question précédente, en matière de politique de recrutement et de capacité à gérer, entre guillemets, la juniorisation des effectifs dans les phases de retournement conjoncturel, comment voyez-vous les choses? Merci.
Ben, c'est une bonne question parce que, évidemment, alors, pour être totalement transparent, on a un certain nombre de personnes qui aujourd'hui sont en période d'essai. Donc on est forcément plus exigeant sur la qualité des périodes d'essai. Bon, la question se pose pour les gens qui avaient signé des contrats de travail et qui devaient rejoindre le groupe. Que fait-on? Est-ce que c'est bien raisonnable de faire rentrer des gens et les mettre en chômage partiel? Il vaut peut-être mieux leur rendre leur liberté. Les plans de recrutement, évidemment, sont complètement gelés, sauf besoin clairement identifié pour lesquels la compétence n'est pas là. Les salaires, les évolutions de salaire, bon, je ne peux pas en parler parce qu'on doit réserver ce genre de discussion en primeur aux instances représentatives du personnel, mais bon, vous imaginez bien que ce ne sera pas les mêmes en 2021 et sur la deuxième partie de l'année 2020 que l'an passé. Donc oui, il va falloir travailler sur la maîtrise de la masse salariale. Comme le turnover va baisser, nécessairement, il n'y aura plus la même juniorisation et donc le salaire moyen, si on veut le maintenir et le maîtriser, on ne pourra pas d'un côté avoir des tarifs qui sont sous pression et d'un autre côté avoir des salaires qui augmentent comme si de rien n'était. Donc il faudra tenir l'évolution du salaire.
Oui, bonjour, Stéphane Ravel, le conservateur. Vous m'entendez?
Oui, très bien.
Oui, merci. Oui, pour rebondir sur la question précédente, jusqu'à présent, vous bénéficiez du chômage partiel jusqu'en juin, mais au-delà de juin, en fait, quelle est la flexibilité que vous avez sur, sur le personnel. Est-ce que vous avez quelques freelances qui peuvent permettre d'amortir un peu le choc attendu sur le Q2 et peut-être même sur le H2? Merci.
Alors, le chômage partiel, selon les pays, il y a des pays où on l'a pour un an, il y a des pays où on l'a pour des durées plus courtes. Et sur la France, selon les entreprises, les demandes ont été acceptées soit jusque fin juin, soit jusque fin septembre pour l'instant. Mais vous savez que les dispositions sur la France notamment ont évolué, c'est-à-dire qu'on a le droit à un quota d'heures qui est utilisable, avant c'était 6 mois, maintenant c'est 1 an, il faut en passer par une demande complémentaire. Donc, si nécessaire, on fera des demandes complémentaires au vu de la situation de fin juin pour proroger jusque fin septembre ou fin décembre les demandes de chômage partiel. Voilà. Donc, en sachant que j'entendais la ministre du Travail dire que les conditions d'indemnisation allaient être revues au mois de juin, puisqu'évidemment, c'est un coût pour les finances de l'État qui est extrêmement élevé, et que, quoi qu'il en soit, le chômage partiel n'a pas pour effet de gommer l'intégralité du coût des salariés, hein, puisqu'il y a une partie qui reste à la charge de l'entreprise. Donc on prorogera le chômage partiel aussi longtemps que nécessaire, et pour autant qu'on a des perspectives de démarrage ou de redémarrage de l'activité à certains endroits. S'il y a des parties de l'activité qui sont arrêtées parce qu'il y a des projets qui s'arrêtent et qui ne sont pas susceptibles d'être remplacés par d'autres, en sachant qu'il faudra se donner un petit peu de temps parce qu'il y a une inertie. Là, il y a des projets qui s'arrêtent, mais l'activité commerciale tourne au ralenti puisqu'il y a moins d'interlocuteurs chez les clients. Évidemment, les réunions ne peuvent pas se faire ou elles se font à distance. Bon, vous imaginez bien qu'on n'est pas sur un train de commercial normal. Quand les choses auront repris normalement, on aura une idée beaucoup plus précise, j'allais dire, du resizing de l'activité. Est-ce qu'on repart sur un embarqué à moins 5? Est-ce qu'on repart sur un embarqué à moins 10? Est-ce que ça sera moins 7? Et en fonction de ça, il faudra qu'on ajuste les effectifs. Alors ça pourra. Alors après, ça dépendra du volume de personnes concernées et des modalités, parce que bon, le turnover continue quand même. Hein, sur avril, on a un taux de turnover qui est toujours de l'ordre de 20%, mais parce que c'est des gens qui avaient posé leur démission avant. Ce qu'il faut qu'on regarde, c'est les démissions qui ont été posées en avril, donc on aura la consolidation là, et puis celles qui vont être posées en mai. Il y a fort à parier que ça va s'effondrer.
Merci.
Mais on ne peut pas utiliser le chômage partiel comme un mode de fonctionnement pérenne, ça c'est sûr. Il ne faut pas en sortir trop tôt, il ne faut pas tirer de conclusion non plus trop tôt. Il est fait justement pour permettre aux entreprises de passer le gué. Voilà. Et on l'utilisera en respectant cette philosophie-là.
D'accord, merci.
Est-ce qu'il y a une dernière question avant que nous clôturions la conférence?
Oui, bonjour. C'est Thomas Perrotin de Moneta. Lors du call, vous avez évoqué une baisse de chiffre d'affaires au S1 d'environ 9% comme étant possible, et c'est ce que vous semblez confirmer aujourd'hui, et également avec une marge de 5%. Et finalement, si on compare au S1 2009, on a quasiment les mêmes chiffres, alors qu'à l'époque, vous n'aviez pas eu la possibilité de recourir au chômage partiel. Donc, pouvez-vous nous dire votre prévision actuelle est très prudente ou autre chose?
Non, je vais préciser les choses, même si on n'a pas communiqué sur les marges, parce que je n'ai pas de visibilité sur la marge S1. La question m'a été posée, effectivement, de savoir si une marge de 5% était crédible. Et j'ai répondu, alors déjà, à savoir si on parle sur l'année ou sur le semestre. Sur le semestre, j'ai dit qu'effectivement, notre marge elle serait probablement inférieure à 5%. Et selon toute probabilité, elle sera inférieure à 5%. Est-ce qu'elle atteindra 5% sur l'année? J'ai dit que ce serait crédible, mais au S1, enfin, je n'ai pas de chiffre aujourd'hui, puisqu'on est au jour le jour, je ne vois pas comment elle pourrait être supérieure à 5 ou même de l'ordre de 5. Elle ne sera pas à zéro non plus, hein, parce que tous les pays fonctionnent pas mal et qu'on a des dispositifs de chômage partiel Alors, il faut qu'ils soient confirmés derrière. Je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne. Vous déposez des demandes, mais elles sont implicitement acceptées. Derrière, il y aura des processus de contrôle.
Donc, oui, d'ailleurs, c'était pas mon autre question, c'est que vous avez dit lors du call que une partie de vos demandes, hein, je crois que c'était la moitié de vos demandes, était passée en question-réponse. Et voilà, donc c'est ce que vous, dites à moi.
Voilà, donc on a effectivement, comme vous l'avez noté, il y a une partie des demandes en France qui ont été acceptées. Il y a une partie des demandes qui ont été implicitement validées, parce que quand il n'y a pas de réponse sous 48 heures, on considère que la demande est valide et implicitement validée, mais c'est sous réserve quand même de validation et de contrôle ultérieur. Donc tant que ce n'est pas définitivement, je dirais, acté, on présuppose que ça l'est. Et effectivement, il y avait à peu près la moitié du volume des ingénieurs, puisqu'en fait ça concernait Alten, la maison mère, qui était en processus de questions-réponses. Donc on a répondu à toutes les questions, on a eu plusieurs jeux de questions-réponses. On a manifestement bien répondu puisqu'on nous a accordé, là pour le coup, explicitement le chômage partiel sur la moitié de l'effectif. Mais je pense que sur S1, on sera en dessous des 5, quand même. Parce qu'effectivement, le volume d'intercontrat est bien supérieur à 2009. Et puis aussi parce que entre-temps, la société a grossi et qu'il y a une structure de coûts qui, comme vous l'avez remarqué au fil des années, on la gère pour qu'elle évolue de façon cohérente avec l'activité. Là, on a une structure de coûts, alors on va la réduire, on va s'adapter évidemment, mais qui a plutôt été dimensionnée pour anticiper un chiffre d'affaires de 2,8 milliards et pas pour anticiper un chiffre d'affaires en recul. Alors on a commencé à couper sur un certain nombre de choses, il y a des projets qu'on avait en interne qu'on a aussi coupés, on fait comme nos clients, c'est la même chose. Mais il faut quand même, il y a quelques semaines, quelques mois d'adaptation. Et puis en 2009, on avait démarré depuis 2005 nos activités en mode work package, mais on n'était pas autant en work package qu'on l'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui en France, c'est la majeure partie de nos activités, et surtout, beaucoup des work package se faisaient chez les clients à l'époque, alors qu'aujourd'hui, beaucoup de work package se font dans nos locaux. Donc vous avez des coûts projets qui aujourd'hui deviennent des coûts fixes, si l'activité baisse. Mais bon, après, je vous donne un sentiment au mieux de ce qu'on voit et des informations qu'on a aujourd'hui, parce que, par exemple, sur le plan de reprise d'activité de juin chez les clients, je suis incapable de dire quel sera le niveau d'activité en juin sur Alten. Enfin, sur le groupe, j'entends. On a pris des hypothèses, évidemment. Hein, c'est un exercice qui est fait de façon très précise par les opérationnels bottom-up, mais encore une fois, ce sont des hypothèses. Parce qu'on a des clients qui eux-mêmes ne savent pas. Hein. Vous voyez, par exemple, Airbus, ils ont classifié leur projet en 4 catégories, mais ils n'ont pas disclosé projet par projet dans quelle catégorie on était, et eux-mêmes sont toujours en train de classifier leur projet. Donc, c'est vous donner le degré d'incertitude qu'on a.
Merci Bruno d'avoir répondu à toutes ces nombreuses questions dans un environnement un peu particulier. Est-ce que vous souhaitez conclure ?
Écoutez, je voulais vous remercier tous. Je crois que vous étiez assez nombreux d'avoir participé à notre, je ne sais pas si on peut appeler ça un roadshow virtuel ou un chat sur l'activité d'Alten en ce moment. Fin du premier trimestre et courant deuxième trimestre. Il y aura des updates qui se feront. Je crois que le prochain rendez-vous avec le marché, c'est au mois de juillet, donc dans 2 mois maintenant, sur le chiffre d'affaires du deuxième trimestre. Et à ce moment-là, puisqu'on aura passé le mois de juin, on y verra nécessairement beaucoup plus clair sur la seconde partie de l'année, parce qu'on aura, enfin j'espère, à ce moment-là, eu un retour précis des clients sur la façon dont ils envisagent la poursuite de l'activité sur l'année 2020. Et au-delà de l'année 2020, je dirais, pour nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est les perspectives 2021, c'est-à-dire, même si des projets sont arrêtés ou décalés, c'est de comprendre quelle sera la dynamique de reprise et de rebond chez nos clients, notamment dans les secteurs les plus touchés l'année prochaine. Voilà, donc je vous remercie encore et puis je vous dis à bientôt.
Merci Bruno.
Merci Charles d'avoir organisé la réunion. À bientôt.
Au revoir, merci.